Et ce matin, on va parler un thème qui parle de la justice sociale. Je pense que vous avez déjà peut-être entendu ce thème-là de la justice sociale. Il suffit d'ouvrir le journal, mais je ne sais pas jusqu'à quand on va ouvrir le journal. Est-ce qu'il y en a qui ouvrent leur journal aux journaux le matin? Puis maintenant, je pense qu'il suffit d'ouvrir nos tablettes ou nos téléphones, parce que maintenant, moi, j'écoute les nouvelles toujours sur mon téléphone. Je suis à jour. Je n'écoute même pas la télé, les nouvelles à la télé. Donc, mais il suffit d'ouvrir notre téléphone ou d'allumer un poste radio même, et même la radio, à un moment donné, pour être informé des nombreuses injustices dont sont victimes les hommes et les femmes à travers le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Et on déplore, et en particulier, la fosse qui existe entre les riches, les pauvres, les nouvelles formes d'esclavage moderne, si on peut dire, et les violations courantes des droits des hommes dans nombreux pays. Et bien sûr, tous les exemples représentent jusque le point de l'iceberg. Il y a beaucoup de problèmes sociaux, ce monde où on vit, selon la vision chrétienne, et sans Dieu. Et nous voyons tous les résultats, toutes les conséquences du péché. Et depuis la nuit des temps, l'injustice causée par toutes sortes d'oppressions sont dans ce monde-là. Justement, et plusieurs pays dans l'histoire même, et dans l'histoire, il y a beaucoup de, soit des organisations, soit des mouvements qui ont vu le jour pour combattre, si on peut dire, la pauvreté, les injustices dans le monde, et tout ce qui concerne l'esclavage. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui ont vu le jour. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce thème-là que ça fait aussi un thème politique même. Et, il est né aussi de ce monde-là qui veulent faire qu'il y ait un genre d'équité, un genre de justice dans ce monde-là. Et donc, c'est peut-être pour bien vouloir faire et combattre même la pauvreté. Mais ce qu'on appelle la justice sociale. Donc, qu'est-ce que la justice sociale? J'ai fait mes devoirs un peu sur Wikipédia et sur Encyclopédie canadienne. Il y a un site web qui s'appelle l'Encyclopédie canadienne qui nous donne quand même des informations sur l'actualité. Et donc, la justice sociale est une construction, si on peut dire, morale et politique qui vise à l'égalité des droits et qu'on soit la nécessité d'une solidarité collective entre les personnes d'une société donnée. Ça sonne un peu un message politique. Au Canada, l'apparition de la justice sociale est une notion souvent liée à l'idée de créer une société équitable et donc plus juste socialement remonte au 19e siècle. Et j'étais en train de lire aussi que dans les années 1800, c'est vraiment de ces mouvements qui est né ce qu'on connaît maintenant l'Armée du Salut, il y a quand même quelques années. Donc, c'est au Canada. Et si on parle du Canada, en fait, la journée mondiale de la justice sociale, même il y a une journée mondiale de la justice sociale qu'on observe pour la première fois depuis 2009. Et depuis chaque année, le 20 février, remonte au sommet mondial des Nations Unies pour le développement des nations. Et en 1995, donc lors du sommet, le Canada et 117 autres pays ont promis de contribuer à la justice sociale en s'engageant à réduire la pauvreté. Vous voyez, c'est toujours le même vouloir à créer des emplois, le plein emploi, et œuvrer en faveur de l'équité, de la justice, des droits de la personne, de la santé et de la sécurité et de la collectivité aussi. Donc, pensez-vous que c'est quand même bon dans un monde où il vit la justice, il y a la pauvreté? C'est quand même bien vouloir faire ça. Mais le problème, c'est quand ces genres de mouvements rentre dans le milieu évangélique et même dans l'Église. Et ces gens des concepts ou ces gens des pensées. Et malheureusement, c'est le cas. Ce mouvement de justice sociale est présent dans le milieu évangélique et dans nos Églises depuis quelques années, depuis même des longues années. Donc, des chrétiens s'intéressent aux questions sociales touchant la pauvreté, l'accès à l'eau potable, les orphelins, etc. Donc, est-ce que c'est mauvais ça? Non. En réalité, non, mais il faut savoir qu'est-ce que prône, qu'est-ce qui annonce ces mouvements-là en ce qui concerne la justice sociale qui est comme mélangée à l'Évangile. C'est là qui est le problème. Un chrétien influent dans ces domaines, je ne vais pas citer son nom, a même affirmé que cet intérêt renouvelé pour la justice sociale, ou qu'il préfère appeler l'évangile missionnel, ou on appelle aussi des fois l'évangile social, représente la plus grande innovation évangélique. Je pense que vous avez entendu déjà parler de ce thème-là, de justice sociale. Il y en a qui, pour ce qui est connu, il y en a qui ne le connaissent pas peut-être. Même vous avez déjà vu des personnes qui ont dénoncé ce mouvement dans le milieu évangélique. Donc, depuis quelques années, la question de la justice sociale et des implications pour l'Église a pris de l'ampleur aussi même ici au Québec. Et de plus en plus, les croyants des églises locales et des ministères font entendre leur voix et prennent des actions concrètes en son nom. Donc, il y en a qui sont pour ce genre-là, peut-être pas entièrement à ce mouvement de la justice sociale, ou empruntent quelques pratiques en ce qui concerne cette pensée. Donc, quelques énoncés de ce mouvement. Le Dieu de la Bible s'est distingué des dieux de toutes les autres religions comme un Dieu du côté des impuissants et de la justice pour les pauvres. Ça, c'est une des énoncés qui apporte ce mouvement de la justice sociale. Dieu attend aujourd'hui des croyants qu'ils recherchent une justice sociale pour les pauvres. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Moitié d'accord, peut-être. Donc, Dieu attend aujourd'hui des croyants qu'ils recherchent une justice sociale pour les pauvres. D'autres énoncés de ce mouvement, l'Église doit chercher à améliorer toute leur situation parce que les personnes vulnérables ont besoin de plusieurs niveaux d'aide. L'Église doit chercher à améliorer toute leur situation, c'est-à-dire en parlant des injustices, de la pauvreté, et parce que les personnes vulnérables ont besoin de plusieurs niveaux d'aide. Dieu attend aujourd'hui des croyants qu'ils recherchent une justice sociale pour les pauvres. C'est vraiment plus ponctuel. Et encore, la Bible nous appelle à être profondément impliqués dans la défense et la prise en charge des pauvres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça que la Bible enseigne? Est-ce que c'est ça que l'Évangile aussi annonce? On va le voir tantôt dans quelques passages de la Bible. Encore d'autres énoncés. Les chrétiens doivent générer une communauté forte où les êtres humains peuvent s'épanouir. Les chrétiens doivent aller dans les endroits où les tissus de la société s'effondrent et aider à la réparer. Il doit provoquer un changement culturel et une réforme sociale même, s'attaquant vigoureusement aux facteurs environnementaux. Et ça, c'est un des énoncés de quelqu'un qui même écrit des livres, et il est très connu dans le milieu évangélique, et c'est un des énoncés-là. Donc, ces courants de pensée affirment que la justice sociale est au cœur même, il y en a même qui pensent, cette pensée de la justice sociale est au cœur de l'Évangile, là où se trouve également le pardon des péchés et la transformation personnelle. Donc, ils disent que ce courant, la justice sociale, est même au cœur du message de l'Évangile, ou même au cœur de la vie chrétienne. Il concerne aussi la mission de l'Église, et en lien avec la transformation de la société et de la création, ou encore de la rédemption de la culture, tout en énonçant aussi la rédemption de la culture. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si la culture a une âme pour qu'elle soit rachetée, mais peut-être c'est une façon de parler, oui, et imagée, mais quand même. Et c'est ce qui affirme la Bible, appuie tous ces énoncés-là, toute cette pensée. Où trouvons-nous l'appui biblique pour ces affirmations? Donc, c'est quoi la justice selon la Bible? Que dit la Bible en ce qui concerne l'Évangile? Ou quelle est la mission de l'Église? En réalité, cette pensée de la justice sociale touche à tous ces sujets-là. En ce qui concerne la justice de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit de l'Évangile? C'est quoi vraiment le message de l'Évangile? Qu'est-ce qu'on doit prêcher? Et quelle est la mission de l'Église? Quelle est la mission? Pourquoi l'Église? Ça peut être aussi par rapport à la raison d'être de l'Église, c'est peut-être plus profond, mais en ce qui concerne juste sa mission, quelle est cette mission-là? Et donc, je crois que la Bible, la parole de Dieu, répond à toutes ces questions. Donc, on va le voir par quelques versets. En premier lieu, la justice de Dieu. La justice de Dieu signifie qu'il agit toujours conformément à ce qu'il est, ce qui est juste. Dieu est juste. Et ce qui lui-même, le critère suprême de ce qui est juste, ça parle de la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste, un Dieu de justice. Moïse dit au sujet de Dieu, car toutes ses voies sont équitables, c'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. Dans l'Ancien Testament, on voit des fois le mot juste et droit, que c'est un peu le même, des fois il est utilisé pour dire la même chose, juste et droit. Abraham fait appel à la justice de Dieu lorsqu'il dit, celui qui juge toute la terre n'agira pas selon le droit. Il fait aussi appel à la justice de Dieu. Dieu ordonne ce qui est juste. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Dans le psaume 19, ce psaume-là qu'au début parle vraiment de la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu aussi. Il ordonne que ce qui est juste, les ordres de l'Éternel sont droits. Il dit de lui-même, « Moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste et je proclame ce qui est droit. » Donc, on voit dans la Bible, en ce qui concerne la justice de Dieu. En fait, la justice de Dieu fait partie de ses attributs moraux, les attributs moraux de Dieu. Dieu a institué dans le monde une règle morale, on le voit dans sa loi, dans ses lois même, juste, qui inclut aussi des sanctions. L'homme doit pratiquer la justice, qui est la manifestation de la véritable sainteté. Pratiquer la justice. Connaissez-vous Michée 6:8? On t'a fait connaître aux hommes ce qui plaît à l'Éternel, c'est de pratiquer la justice, vivre pieusement devant Dieu, vivre selon la parole de Dieu, pratiquer la justice. Et dans ces temps des Michées, il y avait beaucoup d'injustices dans le peuple juif. Les veuves étaient négligées, il y avait beaucoup des pauvres, et ceux qui étaient responsables dans le peuple d'Israël ils étaient enrichis à cause des pauvres. Puis Dieu, par les prophètes, il parlait avec ces rois-là même pour exhorter à que ces genres de choses n'arrivent pas. Et c'est dans ces contextes-là qu'on lit ce qui est écrit dans Michée. Ou dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée 6:11, il dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et je recherche quoi? La justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. » Il n'y a pas juste la justice, hein? Il dit, suis aussi, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Malheureusement, ce mouvement-là de la justice sociale fait juste en face en ce qui concerne la justice ou les injustices. l'Évangile. Et donc, je pense que c'est un verset que nous connaissons, que nous utilisons même pour définir qu'est-ce qui est vraiment le message de l'Évangile. On pourrait aussi parler de Romains 1, 16. Mais en Corinthiens 15, 1 à 4, nous lisons, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, c'est-à-dire selon la vérité de l'Évangile, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. » Et qu'est-ce qui a été annoncé dans ce message de l'Évangile? Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Qu'est-ce que c'est le message central de l'Évangile? Que Christ est mort pour nos péchés. Et puis, il est aussi ressuscité. Nous avons cet espoir-là qu'un jour nous serons avec Dieu. Nous allons vivre avec lui. Et la Bible mentionne qu'il n'y aura plus de péché. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'injustice. Il n'y aura plus de pauvres. Donc, c'est ça le message central de l'Évangile. Donc, l'Évangile, donc, est la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu, si on veut paraphraser ce message, est entré dans le monde, pécheur, amené une vie d'obéissance parfaite à son Père, est mort en sacrifice à la place des pécheurs et est ressuscité triomphalement comme preuve de la défaite du péché et de notre acceptation par le Père. Le Fils a ainsi procuré la justice à ceux qui n'étaient pas personnellement justes. Il a donc désormais plus aucune. Et vous connaissez aussi ce verset de Romains 8. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui placent leur foi en Christ seul. C'est une façon aussi de dire qu'est-ce que c'est vraiment l'Évangile, le message. On l'a étudié dernièrement, je crois, au niveau des groupes des quartiers. Hein, vous vous rappelez, le message de l'Évangile est comme l'accomplissement de toutes les promesses aussi. Le message et le contenu du message aussi, et en ce qui concerne l'Évangile. Donc, l'Évangile, c'est vraiment la bonne nouvelle, simplement la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Mais on trouve des fois cette expression-là de vivre l'Évangile. Je ne veux pas critiquer ceux qui utilisent cette expression-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai dans le sens que si on définit, qu'est-ce que vous définissez par le mot « évangile », comme on vient de dire, l'évangile, c'est vraiment l'annonce de la bonne nouvelle, mais il y a une façon de dire « vivre de l'évangile » qui est utilisée surtout de ceux qui appuient ce mouvement de la justice sociale. Et seulement conduisez-vous, et dit d'une manière digne de l'évangile du Christ. Je pense que la Bible nous dit que nous conduire selon, d'une manière digne de l'évangile du Christ, comme racheté par Dieu. Et qu'on vit selon Dieu. Peut-être on pourrait dire vivre selon la vérité de l'Évangile, selon l'Évangile. Nous qui sommes sauvés par l'annonce de l'Évangile qui nous sauve, nous sommes maintenant appelés à nous conduire de façon conséquente aux vérités qui contiennent cette bonne nouvelle. Et cette vérité, nous l'avons vue, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Et nous devons vivre conséquemment à cet appel-là. Donc, comment nous devons vivre? Nous avons tout ce que le Seigneur nous a laissé dans sa parole, tous les enseignements de Jésus, les enseignements des apôtres, les épîtres. On a beaucoup, donc selon cette vérité de l'Évangile. Il y a d'autres versets aussi qui nous encouragent à vivre selon cette vérité-là. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et surtout, frères et sœurs, c'est les œuvres bonnes que vous faites comme peuple de Dieu, comme Église. Et nous allons voir un autre verset qui parle un peu aussi de ça, comme Église. Et qu'est-ce que nous reflétons comme chrétiens, que ce soit dans le milieu de travail, dans nos, dans notre, à notre école, à la maison même. Parce qu'à la maison, des fois, on vit avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Donc, nous avons vécu pendant quelques années avec des enfants qui ne sont pas chrétiens. Donc, eux, ils ont connu le Seigneur peu à peu, j'imagine, j'espère, je crois. Mais on a quand même un témoignage devant eux. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. Ça ne veut pas dire que s'impliquer dans notre société pour aider quelqu'un, pour aider, je ne sais pas, quelqu'un qui est dans le besoin, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Donc, mais surtout, la Bible nous exhorte, et c'est pour ça la raison d'être aussi de l'Église, à vivre comme peuple de Dieu, c'est-à-dire exhortant les uns les autres, exerçant l'amour les uns les autres. Donc, au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où vous calomniez, comme faisant le mal, ils voient, encore une fois, vos œuvres bonnes, et glorifient Dieu au jour, et j'aime beaucoup la fin de ce verset, au jour de sa visite. Donc, par notre témoignage, des gens peuvent venir connaître la vérité. C'est pour ça que c'est important, notre témoignage, devant ce qui c'est du dehors, comme les appelle l'apôtre Paul aussi. Par contre, il ne faut pas confondre l'action sociale et la proclamation de l'Évangile. L'action sociale, c'est-à-dire aider les pauvres ou être sensible à différents besoins de notre société, et ça, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas le message de l'Évangile. Toute proclamation de l'Évangile ne s'accompagne pas d'une action sociale, nécessairement. Et toute action sociale ne débouche pas sur une proclamation de l'Évangile non plus. On peut être chrétien, on peut pratiquer, pratiquer le aider les autres, mais sans nécessairement parler de l'Évangile. Des fois, j'entends dire que, bon, par mes œuvres, je peux dire que je suis chrétien. Il y a un jour, une sœur qui m'a dit, j'ai rencontré un chrétien à mon travail. Puis, à un moment donné, j'ai travaillé pendant 3-4 mois. Puis, cette personne-là, à un moment donné, on s'est côtoyé tous les jours. Puis, on dînait à quelque part, et elle m'a dit, « Hey, j'ai jamais pensé que tu étais chrétienne. » Donc, ça veut dire quoi, ça? Est-ce que peut-être juste, « Oh, je n'ai pas pensé, le monde est petit » ou « parce que de la façon que tu vis », je ne sais pas. Mais ça peut nous poser des questions. Donc, ce n'est pas juste ça avec notre témoignage. Le monde est rempli des gens qui sont moralement, ils vivent une vie morale parfaite, si on peut dire, même des fois. Mais si on ne parle pas, si on n'ouvre pas la bouche, pour parler de l'Évangile, ça ne donne rien. De façon générale, le Nouveau Testament encourage les chrétiens à prendre à cœur la manière dont leur conduite est perçue par les non-chrétiens. Et on voit dans Colossiens 4, 5, il dit « Conduisez-vous avec sagesse » en verset du dehors. Encore là, ceux du dehors, la Bible, quand il parle de ceux du dehors, c'est vraiment ceux qui ne sont pas chrétiens. Et il dit, rachetez les temps, conduisez-vous avec sagesse en verset du dehors. Ça touche vraiment notre témoignage. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans les discrédits et dans le piège du diable. Donc il dit, il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Est-ce qu'on a un bon témoignage, nous? Est-ce que j'ai un bon témoignage? À côté, mes voisins, comment ils me voient? Oh, lui, là, j'ai peur de lui parler des fois. On dirait qu'il est fâché. Ou je ne sais pas. Ou il n'est pas content toujours. Quel est notre témoignage à côté des gens qui nous côtoient, que ce soit au travail? Donc, c'est important, notre témoignage envers ceux du dehors. Mais en ce qui concerne la mission de l'Église, la mission de l'Église est résumée par des passages qui relatent le grand ordre des missions, les instructions cruciales que Jésus a laissées à la fin des évangiles et au début aussi des livres des actes. Donc, nous allons voir quelques versets en ce qui concerne la mission, l'envoi, si on peut dire, le mot mission, ça veut dire l'envoi, de l'Église de Dieu dans le monde, mais vous recevrez une puissance, il dit. Il est en train de parler aux disciples. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est un verset que nous connaissons très bien, Actes 1, 8. Vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte que nous puissions être des témoins. Nous sommes témoins. Un autre verset, Luc 24, 44 à 48, puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Il leur dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés, encore là, c'est un peu, ça rejoint aussi en Corinthiens 15, en vue des péchés, serait prêchée en son nom à toutes les nations et commencer par Jérusalem. Vous êtes encore, vous en êtes témoins. Ça, c'est Luc 24, en ce qui concerne la mission de l'Église. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, selon Marc 13, 10. Jésus approchait et leur parla ainsi, et ça, c'est le verset par excellence que nous utilisons pour dire quel est le mandat, quelle est la mission de l'Église. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations. Qu'est-ce que le mandat? Allez, faites de toutes les nations de quoi? Des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à quoi? À garder tout. Ce n'est pas juste enseigner aux gens. Hein? Ce qui est plus difficile, c'est les enseigner à les garder. Et vous, que vous avez des enfants, et c'est bon, hein? Des fois, on veut enseigner nos enfants. Mais surtout, enseigner à qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Ça, c'est encore plus dur. Enseigner à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Baptisez-les au nom du Père. À l'effet de tout. De toutes les nations, des disciples. Nous croyons que l'Église est envoyée, c'est la mission, dans le monde pour témoigner de Jésus en proclamant l'Évangile et en faisant des disciples de toutes les nations. Voilà notre tâche comme Église, voilà notre appel, il est unique et central. Je pense que c'est clair dans tout ce verset que nous venons de lire que le mandat ou la mission de l'Église, c'est vraiment faire des disciples. L'Église est investie dans un message qui doit être proclamé à ceux du dehors, à ceux qui n'ont pas entendu ce message-là. C'est dans ce sens-là, typiquement, qu'on voit quand on parle des missions, la mission de l'Église. Mais certains présenteraient, et encore là dans ce mouvement, une définition différente, et plus globale de cette mission et de l'Église, une pensée missionnelle. Et quand j'étais en train d'écrire ce Word, il n'y a même pas une correction pour missionnelle. Il n'y a même pas une recommandation pour écrire missionnelle. C'est un mot qu'on a inventé un peu pour un peu défendre un peu leur position. Peu à peu, le terme missionnel est venu signifier simplement d'être en mission, toujours. Être missionnel, c'est être conscient que tout ce que nous faisons doit servir à la mission de l'Église. Qu'est-ce que la mission de l'Église? Faire des disciples. Malheureusement, derrière ce terme, se dissimulent toutes sortes de concepts qui n'ont rien à voir avec la mission de l'Église. Donc, par exemple, les bonnes œuvres, justice sociale, transformer le monde, et construire le royaume ou bâtir pour le royaume, c'est encore une autre expression, bâtir le royaume de Dieu. Parler des devoirs chrétiens, agir pour contrer les injustices, la pauvreté, sans parler de l'Évangile, du message de l'Évangile, ou encore transmettre une passion pour revitaliser la communauté et nous attaquer aux problèmes sociaux. C'est des fois ce genre de choses qu'on utilise pour un peu vouloir évangéliser, mais sans nécessairement annoncer la vérité de l'Évangile. le message. Un certain langage missiologique fait régulièrement l'équation entre l'activité de l'Église et l'idée de bâtir ou faire avancer le royaume de Dieu. Donc, ces expressions se fondent en partie sur l'enseignement du règne de Dieu dans les évangiles. Nous avons lu plusieurs allusions à ces royaumes de Dieu. L'Écriture nous met en garde contre toute idée que nous pourrions, par nos efforts, instaurer le royaume définitif et provoquer même l'avènement. Donc Jésus affirme que c'est lui-même qui bâtira son Église. C'est qui bâtit son Église? C'est Jésus-même. Il dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est Jésus qui bâtit son Église. Et l'apôtre Paul va un peu dans ce même sens quand on lit dans 1 Corinthiens 3, 5 à 7, souligne que lui et ses collaborateurs œuvrent ensemble dans l'Église et qu'il est le champ de Dieu, mais il mentionne que la croissance vient de Dieu. C'est lui qui construit son Église. Quand il dit « Moi, je suis Paul », et un autre, « Moi, d'Apollos », quand quelqu'un dit « N'êtes pas des hommes ?» Et qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait quoi? Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante et qui essaie quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est lui qui bâtit son Église et utilise les frères et sœurs pour vraiment annoncer ce message de l'Évangile qui est clair. Nulle part dans les Écritures, il y a des croyants appelés à racheter la création. Je ne pense pas qu'il y ait un mandat pour même l'Église ou même former un organisme pour corriger les maux de la société déchue. Des fois, il y a des églises qui mettent beaucoup d'efforts par rapport à ça. Ce n'est pas le mandat de l'Église. Elle n'a pas reçu ce genre de pouvoir. L'Église existe. Pourquoi? Pour adorer Dieu. Ça, c'est un peu ce qu'on peut dire, l'effet vertical, si on peut dire, pour adorer Dieu. Et nous le faisons quand nous réunissons ensemble, la communion, et prêcher le Christ. Comme dit Colossiens, il dit « Avertissez chaque homme et enseignant à chaque homme en toute sagesse afin que nous puissions présenter tout homme parfait en Christ Jésus. » Pour l'édification, l'Église existe pour cela. Et donc, ce n'est pas le mandat de l'Église de racheter cette création. Ce n'est pas le travail de l'Église d'exiger la justice et de travailler à cette fin, afin de créer un idéal d'égalité ou de meilleure vie terrestre pour tous. En réalité, lorsque l'Église définit sa présence et son activité en rapport avec la transformation de la société, elle passe à côté de la mission qui lui est confiée. On met beaucoup l'emphase sur ce qui est le social. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon faire du bien à la société, mais quand ça devient, on remplace ça pour le mandat de l'Église, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. L'Écriture réserve la notion de transformation de l'œuvre de l'Esprit qui agit dans l'Église à la vie des croyants en réalité. Racheter la société ou notre société, ce n'est pas biblique. Comme le dit l'apôtre Paul, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, il dit. C'est nous qui sommes transformés, c'est l'Église. Et la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Il faut distinguer donc entre la transformation sociale et les conséquences des effets de l'Évangile. L'Église n'a pas à s'intéresser des effets positifs de l'Évangile pour la société, encore moins à les mépriser, mais cela restera de l'ordre des conséquences heureuses et provisoires de son message, non la finalité. Il est vrai qu'il y a eu des pays qui ont un taux de, on peut dire, d'évangéliques haut. Je me rappelle que ma femme vient du Guatemala. Elle vient du Guatemala. Mais je me rappelle qu'elle me racontait que dans les années 80, je crois, moins 70, l'Évangile était très fort au Guatemala. Donc, même il y avait au sein du gouvernement des gens chrétiens, pas des gens chrétiens, des gens, des frères et sœurs chrétiennes. On a eu un Jean chrétien ici, mais ça n'a rien à voir. Mais dans le gouvernement, il y avait des gens et des frères et sœurs qui travaillaient au gouvernement, même très haut placés. À cause de quoi? À cause du message de l'Évangile. Ce n'est pas à cause qu'ils ont cherché à faire toutes sortes de choses pour rentrer dans la politique. Non, ça va de soi, le fait qu'une société est affectée à cause du message de l'Évangile. Jésus n'a pas cherché, par ses miracles, à améliorer la société. Vous êtes d'accord avec moi, je crois. Son œuvre de transformation révèle plutôt son enseignement de sa mort et de sa résurrection. Et les promesses à ceux qui placent leur confiance en lui. Est-ce que Jésus, quand il est venu, a fini avec la pauvreté? Je ne crois pas. Est-ce qu'il a soigné tous les malades? Non plus. Il a fini avec toutes les injustices du monde? Non plus. Même il disait, donnez à César ce qui est à César. Et César, c'était qui, là? César, c'était un monstre, si on peut dire. Avec cet argent-là, il pouvait aller faire des guerres et tuer d'autres personnes. Mais Jésus n'est pas venu, quand il est venu à finir avec ces choses-là, il est venu pour ce message, sa mort, sa résurrection. Et c'est le même message que nous, comme Église, nous devons annoncer aux gens du dehors. Le geste de miséricorde ou de solidarité de la part de l'Église, en tant qu'Église, se doivent inscrire dans cette même perspective. Donc, c'est-à-dire, les conséquences de l'Évangile vont affecter sûrement notre société. Donc, l'Église contribuera le plus à l'avancement du royaume lorsqu'elle se concentrera sur le fait de la propre vocation, en vivant réellement comme peuple de Dieu, tourné vers son Seigneur, en pratiquant l'amour fraternel comme signe attestant la réalité de son message, et en proclamant au monde, par ses paroles et ses gestes aussi concrets, la Seigneurie du Christ roi, devant qui les nations sont invitées à fléchir le genou. C'est pour ça que nous aussi, à l'Église, nous avons ce comptoir alimentaire, qui d'ailleurs a tellement grandi au temps de la pandémie, et on a un comptoir vestimentaire aussi, mais nous utilisons ça vraiment pour partager l'Évangile. Notre priorité, c'est partager l'Évangile. Ce n'est pas notre but, ce n'est pas finir avec la pauvreté, quoique ça aide aussi. Et nous sommes vraiment, je crois qu'un chrétien est sensible à quelqu'un qui souffre, oui ou non? Je crois que oui. Et nous sommes prêts à aider. Je ne sais pas quel jour quelqu'un a appelé ici à l'église, puis il voulait s'inscrire au comptoir alimentaire. Mais quand il m'a commencé un peu à raconter ce qu'il vivait, ça nous touche. On est vraiment sensible. Ça nous touche vraiment, puis on veut aider. Ça va de soi. Et j'ai commencé à chercher appartement et l'aider à chercher des appartements, des choses pour... c'est un non-chrétien, mais on est sensible à ces choses-là. Mais on fait pas ça d'une priorité dire que ça, c'est vraiment le message de l'Évangile. C'est vraiment conséquent à notre vie. C'est vraiment conséquent à la réalité de l'Évangile. Nous devons suivre le Christ, celui qui a été sacrifié pour notre justice, lui seul pour apporter la justice un monde injuste et pécheur. L'évangile de la justice sociale est une fausse doctrine, aussi grave que l'évangile de la prospérité qu'on a aussi étudié. D'ailleurs, ces fausses doctrines sont fondées sur le même mensonge, c'est-à-dire Dieu veut nous sortir de la souffrance pendant que votre vie sur terre, maladie, pauvreté et toute injustice. D'ailleurs, le Seigneur a dit, dans le monde, vous allez avoir des afflictions. Mais rappelez-vous, j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on vit dans un monde injuste? Oui. Même la Bible nous dit que nous allons, ceux qui veulent suivre Jésus, ils vont souffrir aussi, comme lui a souffert. Il y a un passage dans la vie en Thessaloniciens. J'aimerais que, si vous puissiez aller en Thessaloniciens, on voit vraiment les résultats, ce qu'on voit de l'Évangile. et pourquoi le résultat et la vie, le message qu'envoie l'Église est puissant. Ça ne veut pas dire que c'est juste ça qui suffit, c'est-à-dire vivre comme Église, nous aimer les uns les autres par l'amour que vous avez, qui vous avez entre vous. Le monde va connaître que vous êtes mes disciples. C'est vrai, mais notre responsabilité, c'est aussi de annoncer cet évangile-là. Mais sachons que le message, la vie de l'Église affecte, comme j'ai dit tantôt, la société et on peut dire, il donne le goût à d'autres de pouvoir connaître, chercher de Dieu. On voit dans plusieurs exemples dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont été attirés dans l'Ancien Testament. Qui on peut citer peut-être Ruth, la Moabite, on peut voir aussi Rahab aussi, et qui a vu vraiment le peuple de Dieu, que Dieu était avec eux, et puis il a voulu aider ce peuple-là. Verset 2, 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, et nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine certitude. Vous avez en effet de ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et c'est du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine, en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi s'est fait connaître en tout lieu. C'est puissant, hein, le message, le résultat du message de l'Évangile, à tel point que nous n'avons plus besoin de parler. Et on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu et vous détournez des idoles pour servir le Dieu vivant. C'est très puissant aussi la vie d'Église. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, c'est par l'amour qu'il y a entre nous, les autres vont voir, ils vont croire aussi. Encore là, je dis, ça passe aussi ça passe surtout par le message de l'Évangile que nous avons lu. Et j'aimerais finir avec ce verset, oui, non, non, justice sociale, oui, justice, en espagnol, on dit célestial, pour dire céleste. Attendez et hâtez l'avènement du Seigneur de Dieu, du jour de Dieu, pardon, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrassés se fondront. Mais qui ça, nous les croyants, nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, la justice sociale, tout ce que les gens veulent abolir, les souffrances et tout ça. Oui, ça va arriver un jour. Mais pour nous, c'est dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre où la justice habitera. Et donc, nous sommes exhortés, encore là, à partager cette bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux qui sont autour de nous, sans compromettre le message de l'Évangile qui dit que Jésus est mort pour nos péchés. Et on appelle à la repentance aussi. Donc, je vous demande de prier, s'il vous plaît, avec moi. Merci, Seigneur, pour la puissance de l'Évangile, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 1:16, Seigneur, pour quiconque croit. Merci, Seigneur, parce qu'un jour, nous avons entendu ce message merveilleux de la bonne nouvelle de la vie éternelle, Seigneur. Merci, parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Et nous sommes réunis ici ce matin pour pouvoir étudier en ce qui concerne ce grand message, cette bonne nouvelle, Seigneur. Aide-nous à pouvoir rester fidèles à tout ce que tu as établi, Seigneur, tous les enseignements, Seigneur, et puis aide-nous à nous dissocier des fois de la pensée du monde et vouloir les introduire même dans l'Église, Seigneur. Garde-nous de faux enseignements, Seigneur. Et Seigneur, garde-nous pour toi et aide-nous, Seigneur, à pouvoir encore répandre la vérité de ton salut, Seigneur. Nous te prions tout ça au nom de Jésus, ton Fils. Amen.